Lumière présente
5ème République, anatomie d'un régime en crise.
Un livre de Thomas Negaroff et Anne-Charlène Bézina.
Notre constitution est-elle à bout de souffle? Peut-elle survivre à la crise politique actuelle? 45 questions pour comprendre l'histoire politique contemporaine de la France.
5ème République, anatomie d'un régime en crise. Un livre France Inter.
France Inter en voiture, avec CarPlay ou Android Auto, sur l'appli Radio France.
France Inter, il est 13h. Et voici le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Un 13-14 sur le terrain, nous sommes en direct de la maternité de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. L'an dernier, moins de 1000 bébés y sont nés, du jamais vu, à l'image d'une France qui fait de moins en moins d'enfants.
On était fiers de dire qu'on était aux alentours de 2,1 ou 2,05 enfants par femme, mais ça c'était en 2015. On est tombé à 1,6 enfants par femme. Nous on l'a très bien vu sur les inscriptions en maternité qui ont fortement diminué à partir de mars 2022.
Alors nous allons tenter d'expliquer cette dénatalité en donnant la parole à des parents qui s'interrogent, aux médecins, aux sages-femmes qui veulent mieux les accompagner, aux mères qui voient leurs écoles se vider, mais aussi aux entreprises du marché de l'enfance.
Tous les pans de l'économie vont finir par être touchés à un moment donné. En revanche, on a maintenant un tiers de nos ventes qui se font hors de France, qui se font à l'international. Et c'est une manière aussi, ce développement international, de répondre à la baisse de la natalité ici.
Tout cela avec nos reportages et nos invités. Sans oublier, bonjour Céline Asselot.
Bonjour Jérôme.
Avec vous, toute l'actualité de ce jeudi, a commencé par cette minute de silence ce matin.
Oui, organisée dans tous les établissements scolaires en mémoire de cette surveillante poignardée par un collégien de Nogent. Et c'était un moment d'hommage important pour cet élève parisien en classe de 5e.
Moi, je trouve ça important parce que cette personne, elle est morte pendant ses fonctions et elle travaille pour l'État pour former de nouveaux citoyens. C'est stress pour sa famille, pour ses amis, pour toutes les personnes aussi qui la connaissaient. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui est en sécurité alors que tout le monde le mérite.
On évoquera aussi le crash de cet avion dans le nord-ouest de l'Inde avec 242 personnes à son bord. Les tensions grandissantes entre les États-Unis et l'Iran. Et puis ces militants pro-palestiniens qui arrivent par milliers en Égypte pour marcher jusqu'à la frontière avec Gaza. Cette question aussi dans l'actualité. Faut-il mettre en place un impôt minimum pour les Français les plus riches? La taxe Zuckman est débattue cet après-midi au Sénat. Et puis les fortes chaleurs compliquent la vie de bien des professionnels. Reportage à suivre dans le Poitou auprès de ces couvreurs contraints de prendre des pauses fraîches.
Et puis juste avant 14h, nous vous proposerons un petit moment de douceur ici. Les premières minutes de complicité entre un bébé et son papa. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Alors nous sommes dans la maternité de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. 999 naissances l'an dernier, il y en avait 1500 il y a 10 ans. Il n'y a plus que 20 chambres pour les mamans et leurs bébés. Et à l'intérieur de l'une d'elles, la chambre 1053, je vais y pénétrer, il y a Léonie et son petit Jonas. Bonjour Léonie.
Bonjour.
Merci de nous accueillir dans votre chambre. Il dort, j'ai l'impression.
Oui.
Il a mangé il y a pas longtemps?
Oui, il a tété il y a pas longtemps.
Quel âge il a? Il a quelques jours?
Il a 4 jours. Il est né dimanche.
Tout s'est bien passé?
Très bien, parfait.
Vous êtes heureuse?
Oui, très.
Comment vous envisagez la suite avec Jonas et avec sa grande sœur?
Oui, c'est ça, il a une grande sœur qui a 5 ans et demi.
Vous sortez aujourd'hui?
Oui, cet après-midi.
Jonas, c'est donc votre deuxième enfant?
Oui.
Est-ce que vous envisagez, alors la question se pose là, mais il n'a que quelques jours, est-ce que vous envisagez d'avoir un troisième enfant peut-être?
Non, non, c'est pas d'actualité, non.
Pour quelle raison?
Déjà, il y a l'âge qui commence à avancer. Hein. On est dans une société où on se met tard à travailler, à acheter. On vit une vie à 200 à l'heure. Tous les jours, on rentre très tard du travail. Donc, on est toujours dans vite, vite, vite. Donc, non, deux enfants, c'est bien. Faut qu'on pense à leur avenir et puis à notre vie de famille, surtout.
Quel âge vous avez?
Je vais avoir 37 ans.
Et quand vous dites il faut s'organiser, il y a le temps, vous voulez profiter de vos enfants. Vous dites que si vous avez des enfants, c'est pour passer du temps avec eux.
Profiter d'eux, donc déjà avoir le temps, mais aussi les moyens de profiter d'eux, parce que avec l'inflation, clairement, on voit bien que la vie devient de plus en plus compliquée. Donc c'est des calculs à faire. Hein, malheureusement, ça rentre en compte dans nos choix.
Vous allez passer à 80%, je crois, Léonie, pour votre travail?
Oui, j'y réfléchis, de prendre le congé parental 80%, mais c'est vrai qu'il y a quand même des conséquences financières, donc c'est un projet envisagé, mais à bien réfléchir.
Vous avez trouvé une solution de garde? pour Jonas et peut-être pour sa grande sœur aussi.
Oui, tout à fait. On a la chance de pouvoir garder la même assistante maternelle qu'on a eue pour la première, qu'on a eu des difficultés à trouver d'ailleurs. Donc là, on sait qu'on a déjà ce poids en moins. C'est une bonne chose.
Et la garde à l'école, c'est aussi un sujet pour votre fille ?
Oui, aussi, parce que forcément, on a des horaires assez atypiques, des horaires tard. Donc, au-delà de la garderie, il faut aussi réfléchir à, après la garderie, comment on fait jusqu'à ce qu'on rentre du travail. Donc voilà. Mais on a la chance d'avoir une école qui est à proximité parce qu'on habite le centre-ville. Mais c'est vrai que les écoles qui ferment également, c'est toutes ces questions qui entrent en considération.
C'est toutes ces questions qu'on va poser dans ce 13-14. Merci infiniment, Léonie, de nous avoir ouvert la porte avec votre petit Jonas qui est là, qui est bien couvert, qui dort paisiblement ici dans cette chambre de la maternité de Saint-Omer. On voulait vous faire partager ce moment dans ce 13-14 que l'on aime vivant et au plus près de la vie. Et nous y sommes. On parle donc de dénatalité aujourd'hui. Je vais vous retrouver, Céline, dans quelques minutes avec nos invités médecins, sages-femmes, élus, chefs d'entreprise pour parler d'un sujet qui a évidemment des conséquences pour beaucoup de secteurs de notre société. Avant cela, toute l'actualité évidemment de ce jeudi, Céline Asselot, et cet instant de recueillement, c'était il y a moins d'une heure dans tous les établissements scolaires de France.
Oui, une minute de silence à la demande de la ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, pour rendre hommage à Mélanie, cette surveillante de 31 ans, poignardée par un élève de son collège à Nogent, en Haute-Marne. Le geste a provoqué une immense vague d'émotions dans le monde éducatif, dans le monde politique aussi. Ce matin, Emmanuel Macron déplore une désinhibition de la violence, et les élèves aussi ont fait part ce matin de leur émotion. Bonjour Cécile Bideau.
Bonjour.
Vous avez assisté à cette minute de silence dans un collège lycée parisien.
Oui, dans la cour arborée du lycée, environ 300 élèves sont rassemblés ici à Victor Duruy, debout, à midi pile, sur le perron du bâtiment centenaire. Le proviseur prend la parole.
Nous nous réunissons en ce jour pour exprimer à l'unisson de toute la nation notre tristesse. Notre choc et notre désarroi face à l'indicible sont immenses. Mais, chers élèves, comme dans toutes les épreuves qu'elle a traversées, l'éducation nationale restera debout. En mémoire de Mélanie Grapinet, je vous remercie d'observer une minute de silence.
Les élèves, mains dans le dos, baissent la tête, certains ferment les yeux. Seuls les collégiens sont présents, là ont fini les cours hier. Les élèves de 3e ont du mal à réaliser que c'est un adolescent de leur âge qui a porté les coups de couteau mortels. Tout le monde devrait être en sécurité à l'école, confie l'un. Je suis flippée, complète sa camarade. À l'issue de la cérémonie, la ministre de la Culture, Rachida Dati, maire du 7e arrondissement de Paris où nous sommes, a échangé avec les collégiens qui lui ont fait part de leurs inquiétudes.
Est-ce que la sécurité dans les collèges va être renforcée ?
Oui, elle va être renforcée, mais ça appelle à la responsabilité, vous-même. Peut-être que vous savez, moi j'ai eu le cas dans le 7e arrondissement, d'enfants qui avaient des couteaux dans leur sac. Ça peut arriver à tout le monde, n'importe où.
Dans ce lycée où a étudié la philosophe Simone Veil, les collégiens ont rejoint leur salle de classe pour leurs toutes dernières heures de cours avant les vacances.
Merci Cécile Bideau en direct de cet établissement parisien grâce aux moyens techniques de Raymond Albouy. Pendant ce temps, l'enquête avance. Le parquet de Dijon a requis la mise en examen de l'adolescent de 14 ans pour meurtre d'une personne chargée de mission de service public. Il encourt une peine de 20 ans de réclusion criminelle alors que ses camarades du collège Françoise Dolto de Nogent ont repris les cours ce matin, des élèves et leurs parents, encore bouleversés par ce qui s'est passé dans leur établissement.
Moi, ça va mieux que les autres jours, mais ça... Je sais pas comment expliquer mon ressenti. J'arrive pas à parler, je sais pas comment expliquer. Je pense pas que je vais aller voir la cellule psychologique aujourd'hui.
Il faudra du temps avant de parler.
Oui.
Mélanie, tu la connaissais un peu ou...
Je parlais que à elle et j'appréciais que elle.
Encore beaucoup d'émotions. Les filles l'estimaient bien, l'appréciaient beaucoup. Elle l'aimait, quoi, en fait. Et le jour où c'est arrivé, j'ai l'image où je l'ai vue arriver, traverser. Et puis, quelques minutes après, sa vie, elle part.
J'ai un peu peur, je voulais pas trop venir. Et moi, j'ai peur que ça se reproduise.
Je me dis, si on ne met pas à l'école, ça veut dire donner raison aux agresseurs. Et je ne veux pas leur donner raison, justement. Il faut qu'on avance. De toute façon, maintenant, il n'y a plus le choix, il faut avancer. En espérant que le gouvernement fasse quelque chose pour la sécurité de nos enfants.
Voilà, témoignage d'élèves et de parents d'élèves au micro de William Delesseux. Et puis, hasard du calendrier, c'est aujourd'hui que le gouvernement dévoilait son plan sur la santé mentale. Une trentaine de mesures pour mieux repérer, mieux soigner les troubles psychiques, notamment chez les jeunes. L'objectif est de passer de 500 à 600 internes en psychiatrie par an à partir de 2027, annonce du ministre. Yannick Noder ce matin sur France Inter qui dit aussi vouloir supprimer le numerus apertus pour former davantage de médecins. L'actualité, c'est aussi cet avion qui s'écrase dans le nord-ouest de l'Inde. Un avion de la compagnie Air India qui venait de décoller d'Ahmedabad pour rallier l'aéroport de Londres avec 242 personnes à son bord. Le Boeing 787 a émis un appel d'urgence avant de s'écraser au sol dans des circonstances qui restent encore à éclaircir. Léa Ojal, vous êtes en Inde.
À bord de l'appareil, un Boeing 787 Dreamliner se trouvait 169 ressortissants indiens, 53 britanniques, un canadien et 7 portugais. L'avion devait atterrir à Londres à 18h25, heure locale. Peu après le décollage, le vol a émis un signal de détresse avant de perdre le contact avec la tour de contrôle. L'appareil s'est ensuite écrasé en dehors du périmètre de l'aéroport. Des images saisissantes montrent une épaisse fumée noire s'élevant du lieu du crash. Les secours sont rapidement intervenus et l'évacuation des passagers vers les hôpitaux les plus proches est en cours. Le ministre de l'Intérieur indien, Amit Shah, est attendu sur les lieux du drame à 16h, heure locale. Le ministre de l'Aviation civile devrait également s'y rendre dans les prochaines heures. Le président de la compagnie indienne a qualifié l'accident de tragédie et a présenté ses condoléances aux familles touchées. Il a affirmé que la priorité de la compagnie est d'apporter un soutien aux victimes et de coordonner les efforts de secours. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.
Léa Ojala, New Delhi pour France Inter. De son côté, Boeing dit réunir des informations supplémentaires. La situation à Gaza au cœur d'une résolution qui sera discutée aujourd'hui à l'Assemblée générale des Nations Unies. Le texte réclamant un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel pourrait bien être adopté. Pression supplémentaire sur les autorités israéliennes qui doivent aussi faire face à la réprobation croissante d'une partie de la communauté internationale. En témoigne cette grande marche pro-palestinienne qui est en train de s'organiser en Égypte. Des milliers de militants d'une quarantaine de pays sont en train d'arriver au Caire pour se rassembler et pour marcher jusqu'à la frontière avec la bande de Gaza. C'est le cas de ces trois habitantes de Montbéliard que Christophe Beck a rencontrées avant leur départ hier soir pour l'Égypte.
Ces trois militantes montbéliardaises ont été de toutes les mobilisations en faveur de Gaza dans le Nord-Franche-Comté.
Nous sommes trois filles du collectif de Gaza de Montbéliard. On est fortes ensemble et on est persuadées qu'on va y arriver.
Pour Nadia, l'une d'elles, il était inimaginable de ne pas être de cet événement mondial.
J'aurais vraiment très mal vécu le fait de ne pas participer à cette marche qui est très très symbolique pour moi, qui fera partie de l'histoire.
Si elle passe les contrôles du Caire, nos trois montbéliardaises rallieront le désert du Sinaï avant d'entamer une marche de trois jours jusqu'à Rafah, au sud de la bande de Gaza.
Donc on va marcher avec des sacs à dos, dormir sous les tentes. Aucun confort, mais ça ne nous dérange absolument pas. Le but, c'est d'arriver à la frontière de Rafah.
Nadia, qui a déjà eu l'expérience d'une mobilisation lors de l'Eurovision à Bâle, il y a près d'un mois, avec arrestation et garde à vue, est prête à affronter un tel scénario en Égypte.
Oui, nous sommes prêts à prendre le risque. Nous avons dans notre délégation des juristes, des avocats, des médecins. Enfin, on est préparés à toutes les éventualités. Nous sommes prêts à être arrêtés. D'ailleurs, en Suisse, nous avons été gazés, arrêtés, pris en photo.
Quelques milliers de pacifistes suffiront-ils à faire reculer l'armée israélienne ?
On y croit vraiment, on est persuadé que c'est peut-être la solution en fait, la victoire par le peuple.
La marche de trois jours dans le désert du Sinaï devrait démarrer ce dimanche.
Christophe Beck ici, Belfort-Montbéliard avec ce France Bleu. Et selon le collectif organisateur, plus de 200 de ces marcheurs ont été interpellés à leur hôtel ou retenus à l'aéroport du Caire. Tandis qu'il y a quelques jours, c'est à bord d'un bateau que des militants pro-palestiniens avaient pris place pour, je cite, « briser le blocus israélien ». Le voilier avait été arraisonné, les militants arrêtés, 6 d'entre eux, dont l'eurodéputée LFI Rima Hassan, sont en route pour l'aéroport Ben Gurion en vue de leur expulsion. Au Moyen-Orient, les États-Unis s'inquiètent pour la sécurité de leurs ressortissants. Une partie du personnel américain est en train d'être déplacé, indique la Maison-Blanche, après des menaces venues de Téhéran. Leurs bases militaires sont à notre portée. Ainsi dit un ministre iranien, si un conflit nous est imposé, l'autre camp subira assurément plus de pertes alerte que nous. Tension grandissante sur fond de négociations autour du nucléaire. Une nouvelle série de discussions entre les États-Unis et l'Iran est prévue dimanche. Alors qu'aux États-Unis, des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes, toujours pour protester contre la politique migratoire de Donald Trump. Après Los Angeles, c'est à New York, Saint Louis, Indianapolis, Denver que les protestateurs sont descendus dans la rue, soutenus par certaines célébrités. À l'image de Kim Kardashian, les immigrés sont nos voisins, nos amis, nos camarades de classe, écrit la star de la télé-réalité sur les réseaux sociaux. Et puis en Ukraine, de nouvelles frappes ont fait 14 blessés la nuit dernière à Kharkiv, dans le nord-est du pays. Ces derniers jours, la Russie a intensifié ses frappes à travers l'Ukraine. Faut-il taxer davantage les Français les plus riches pour tenter de réduire le déficit public? Les sénateurs vont débattre cet après-midi de la taxe Zucman qui avait été adoptée par l'Assemblée nationale il y a quelques mois. Le texte propose de mettre en place un impôt minimum de 2% pour les Français dont le patrimoine dépasse les 100 millions d'euros. 1800 foyers seraient concernés. La mesure permettrait de rapporter 20 milliards d'euros par an. Et ces derniers jours, des économistes, des maires ont signé des tribunes pour défendre cette proposition de loi. Des associations ont lancé des pétitions. C'est le cas par exemple d'Oxfam. Leïla Abdelke Yacoub en est la directrice du plaidoyer.
Vous avez une toute petite minorité qui ne paye pas sa part juste d'impôts, alors que c'est ceux qui ont le plus de moyens. Il faut pouvoir répondre à ce problème d'argent qui est caché volontairement dans les holdings pour éviter l'impôt. Aujourd'hui, on arrive à un tel niveau d'inégalité que ce n'est plus supportable, en fait. C'est un sujet qui devient inévitable. En 20 ans, les 50 plus grandes fortunes en France ont vu leur patrimoine augmenter de 890% dans la même période. La plupart de nos concitoyens ont souffert énormément de l'inflation, des crises successives. Cette situation ne peut pas perdurer de cette manière. Là, vous ne pouvez pas avoir d'aussi grandes inégalités sans agir pour au moins garantir que chacun paye sa juste part.
La directrice du plaidoyer d'Oxfam au micro de Claire Chaudière, mais cette proposition de loi a peu de chances d'être adoptée par le Sénat dominé par la droite et le centre. Il faut dire que c'est une illusion fiscale sur le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galloux.
À titre personnel, je suis très sensible à la justice fiscale et je suis un peu prudent sur ce qui pourrait être une illusion fiscale. Cette taxe frapperait aussi les biens professionnels, c'est-à-dire les entreprises françaises et leurs propriétaires. Là, je crois qu'il faut qu'on soit un tout petit peu prudent sur l'idée qu'on va taxer les créateurs des plus belles entreprises françaises. Ça aurait des conséquences économiques, surtout que cette taxe n'existe pas dans d'autres pays. Et que la France a déjà plus d'impôts que nos voisins.
Le gouverneur de la Banque de France s'interrogé sur France Info. C'est une mesure destinée à soutenir financièrement les familles monoparentales. Le complément de libre choix du mode de garde va être étendu aux enfants jusqu'à 12 ans quand le parent est isolé au lieu de 6 ans habituellement. Il s'agit là d'une aide accordée aux ménages pour couvrir une partie des frais de crèche ou de nounou. Le dispositif élargi sera mis en place à partir du 1er septembre. Il est chargé de vérifier que les ministres mettent bien l'écologie au cœur de leur action. Augustin Augier vient d'être nommé directeur du secrétariat général à la planification écologique. C'est une information France Inter et on attendait son nom depuis des mois. Bonjour Lise Roosevelt.
Bonjour.
Le poste était vacant depuis mars et le départ du précédent directeur. De quoi laisser penser que le sujet n'était pas une priorité de l'exécutif. Finalement, la nomination a été annoncée ce matin en Conseil des ministres. Il s'agit là, Lise, d'un profil très politique, très écologiste aussi.
Un homme de gauche, oui, diplômé d'une école de commerce, Augustin Augier, 45 ans, travaille des années à la tête d'une ONG avant de s'engager chez les Verts. Bras droit de Marine Tondelier pendant 2 ans jusqu'en janvier dernier. Il a aussi dirigé la campagne d'Éric Piolle lors de la primaire du parti pour la présidentielle. Mais c'est bien la fondation du Modem qu'il a suivi de près, tout petit, à la maison. Augustin Augier est le fils de Marielle de Sarnez, proche parmi les proches de François Bayrou, décédé d'un cancer il y a 4 ans. Le Premier ministre le connaît donc très bien, l'embrasse quand il le croise, il pousse pour sa nomination depuis des mois contre l'avis d'Emmanuel Macron. Augustin Augier a toujours été critique à l'égard du président. Le bras de fer a donc duré plusieurs mois avec 2 candidats en lice. Un jury les a finalement départagés sur l'expérience, assure Matignon à l'instant. Mais c'est à n'en pas douter une victoire pour François Bayrou.
Merci Lise Roseveil en direct de l'Élysée avec Johanna Gabric pour les moyens techniques. La planification écologique est l'un des outils donc de l'exécutif. Dans un monde qui se réchauffe de plus en plus vite, le mois de mai 2025 a été le deuxième mois de mai le plus chaud de l'histoire dans le monde selon l'observatoire Copernicus. Et le mois de juin semble prendre le même chemin. En témoignent les températures aujourd'hui supérieures aux moyennes de saison. On va y revenir tout à l'heure avec les prévisions d'Élodie Calac. Les professionnels les plus exposés tentent donc de trouver la parade pour ne pas trop souffrir de la chaleur, comme ces couvreurs que vous avez rencontrés à Poitiers, Apolline Carré-Guillem.
Dans la salle de pause, Mamoudou se remet d'une matinée de chantier.
Voilà ma bouteille. Beaucoup d'eau, je bois. Et c'est la deuxième bouteille déjà. Souvent même, je mouille mon t-shirt et puis voilà.
En face de lui, Thomas profite de la clim.
Aujourd'hui, c'est de l'entretien de toiture, donc sur un toit industriel particulièrement.
Vous passez où le plus clair de votre temps ?
Dans les airs, sur les toits, attaché à une corde.
La chaleur de ces derniers jours complexifie son travail.
Il fait que 30 degrés, entre guillemets, mais c'est la variation de température. Où la semaine dernière, on était à 15-20 degrés et d'un coup, on a des pics de chaleur. Où là, oui, c'est beaucoup plus dur de s'adapter.
Alors pour les aider, le gérant Mathieu Denis a mis plusieurs choses en place.
On leur donne des serviettes réfrigérantes, des solutions de stockage pour une eau fraîche. Vendredi, on a prévu de démarrer plus tôt parce que le site peut nous accueillir plus tôt. De toute façon, ils ont un droit de retrait et puis nous, on a le beau rôle, on est dans les bureaux et dans les bureaux, il fait bon. Eux, ils sont sur le toit et c'est eux qui sont juges de la situation.
Car le risque, c'est la blessure.
Tous les supports sur lesquels ils travaillent, s'ils posent la main sur le bac sans gants, ils se brûlent la main. Et puis la chaleur, on a des risques de faire une insolation.
Pour se protéger, les ouvriers peuvent aussi avoir recours à des bâches anti-UV et surtout compter sur l'entraide en se relayant selon la sensibilité de chacun à la chaleur.
Reportage ici Poitou, signé Apolline Carré-Guillem. Allez, on va remonter plus au nord maintenant où il fait chaud aussi, je crois. Saint-Omer, oh oui. Dans le Pas-de-Calais, où vous êtes installé, Jérôme Cadet, pour cette édition du 13-14.
Mais pas dans cette maternité où la température est parfaite, évidemment, pour les mamans et pour les bébés. On va se retrouver dans quelques minutes pour parler des natalités ici en direct de Saint-Omer. À tout de suite.
Pourquoi Banque Populaire est la première banque des entreprises ?
Développer mon entreprise et maîtriser son impact sur la société et l'environnement, c'est un vrai défi. Alors Paul, mon conseiller Banque Populaire, m'a parlé du prêt à impact. Si mon entreprise atteint ses objectifs de RSE, elle peut bénéficier d'un remboursement d'intérêt.
Soutenir nos entreprises clientes dans leur transition durable ? C'est ça être la première banque des entreprises. Banque Populaire, la réussite est en vous. Sous réserve d'acceptation par votre Banque Populaire. Étude Kantar PME PMI 2023, 14 banques populaires, première banque des PME.
Il est... Comment dire...
Bon ?
C'est ça, il est bon ton jambon.
Jambon de Bayonne.
Ah bah oui.
Le jambon de Bayonne, bon pour le goût, bon par engagement, bon tout simplement.
Pour votre santé, évitez de grignoter.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Soleil, parfois voilé de la chaleur aujourd'hui.
Oui, les fortes chaleurs progressent vers le nord et l'est. Alors on respire mieux quand même sur la façade ouest avec 24 degrés attendus à La Rochelle, à Biarritz, 27 à Caen, 29 à Bordeaux, 30 degrés à Saint-Omer cet après-midi, 31 à Paris, à Nancy, 32 à Bourges et Toulouse, 33 pour Dijon, pour Lyon et jusqu'à 35 à Grenoble. Alors du nord-ouest vers le nord de la Seine et du bassin parisien au massif central, de belles éclaircies, quelques passages nuageux malgré tout avec quelques averses encore possibles de la Bretagne vers les Hauts-de-France, voire un orage en fin de journée avec un vent de sud-ouest et puis un risque d'orage sur le massif central. Ailleurs, du soleil un petit peu voilé sur le nord-est et sur le sud-ouest. Demain sera la journée la plus chaude de l'épisode, hein, jusqu'à 34 à 36 degrés du massif central vers les régions de l'est. Beaucoup de soleil. Mais attention, en fin d'après-midi, on surveillera des orages parfois forts du nord-ouest jusqu'au nord de la Seine et sur le sud-ouest.
Merci Élodie Calac, Météo France. On donnera quelques conseils pour les parents de jeunes enfants et de nouveau-nés aussi dans ce 13-14 en raison évidemment de la chaleur.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Puisque ce 13-14 est en direct d'une maternité aujourd'hui. Nous sommes à Saint-Omer, département du Pas-de-Calais, département où le nombre de naissances a diminué de 26% en 10 ans. C'est 5000 bébés en moins chaque année quand on compare l'année 2014 avec l'année 2024. C'est l'une des plus fortes baisses de France. Et ça se voit ici, dans cette maternité. Il y a moins de chambres, ça se voit aussi dans les écoles. Et ça va petit à petit avoir des conséquences sur l'ensemble de la société. C'est ce dont on va parler jusqu'à 14h avec nos invités et nos reportages. Juste avant de vous les présenter, je voudrais vous faire écouter l'un des moments du matin, ici, le bain de Jonas. 4 jours, son premier bain avec sa maman Léonie qui était avec nous il y a quelques minutes tout à l'heure à 13h. Elle nous a accueillis pour ce bain ce matin avec Laurie, l'auxiliaire de puériculture.
Je suis Laurie, auxiliaire de puériculture. Ah, oh, peur pas, attends. On mélange au niveau de sa nuque, on replie ici et on remonte ici. Voilà.
Et on ferme pas, on n'attache pas.
On n'attache pas. Donc on va le mettre dans l'eau. Donc la température de l'eau, c'est 37. J'ai vérifié avant. Regarde. C'est comme dans le ventre à maman. Voilà. Il n'est pas tout nu, il pleure moins. Donc ça les rassure. Doigts de pied en éventail. Alors moi, je mets un petit peu d'eau avec le savon pour dire que ce soit moins froid pour lui. Souvent, on fait le bain à J2, voire J3. Mais comme bébé avait perdu un petit peu de poids, on a préféré retarder un peu pour dire qu'il n'utilise pas trop de calories, en fait, qu'il ne perde pas trop de calories.
Et donc, le bain a eu lieu à J4, puisque Jonas est né dimanche. Bonjour, Nala Chorfa. Merci d'être avec nous dans ce 13-14 chef du service maternité ici à Saint-Omer. Merci de nous accueillir. Où est-ce qu'on se trouve ici? Là, il y a des bananes derrière nous, il y a des céréales.
Donc là, on se trouve dans le service de maternité. Vous avez derrière vous la salle petit déjeuner qui est en libre service. Donc, ce qui permet aux parents de suivre leur rythme.
Il y a les chambres tout autour de nous, les mamans sont tout autour de nous.
Tout à fait, et ils peuvent se servir du petit déjeuner à l'heure qui convient pour le couple finalement et le bébé.
Elles viennent quand elles veulent.
Exactement.
Il y a eu deux naissances ces dernières heures, Violette et Emma, qui sont nées ce matin dans cette maternité, qui s'est réduite ces derniers mois, ces dernières années. Il n'y a plus que 20 chambres ici, Nala Chorfa. Vous constatez concrètement les conséquences des baisses de naissances?
C'est-à-dire que nous... moi personnellement, j'ai été formée et travaillée dans la plus grande maternité de France, qui est Jeanne de Flandre.
À Lille.
Et c'est-à-dire quand je suis venue ici, donc le changement était rapide pour moi, parce que comparé 5600 accouchements à 1300 quand je suis arrivée, effectivement la différence, je l'ai vécue il y a quelques années. Mais finalement, depuis le 2017, on s'est Les naissances baissent, certes, mais on s'est recentré sur le bien-être des mamans et des bébés. On a renforcé, on s'est inscrit dans une démarche IHAB.
IHAB, qu'est-ce que ça veut dire?
Donc c'est une certification internationale qui promeut les pratiques qui visent à respecter le lien mère-enfant et l'allaitement.
Mais ça veut dire hôpital ami des bébés.
Donc nous sommes amis des bébés, mais aussi amis des mamans. Oui.
Des mamans qui étaient avant.
Nous sommes dans cette démarche amis des bébés, mais on respecte aussi le choix des mamans. Et donc la démarche, elle est principalement dans le soutien et le bien-être de la famille et des enfants.
Julie Potier, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes sage-femme ici à la maternité de Saint-Omer. Il y a moins de chambres doubles. Avant, il y avait beaucoup plus de chambres doubles. Ici, il y a un confort supplémentaire maintenant pour les mamans qui se retrouvent dans des chambres où elles ne sont pas forcément avec d'autres mamans. C'est aussi un changement concret du baisse du nombre de naissances chaque année dans cette maternité.
Oui, et puis c'est surtout pour le bien-être des patients d'être seuls dans leur chambre, de pouvoir avoir leur conjoint qui est là, auprès de leur bébé.
Est-ce que ça veut dire aussi, Nala Chorfa, que les parents peut-être aujourd'hui choisissent leur maternité?
Tout à fait.
Il y a moins en moins d'enfants, donc peut-être qu'ils sont un peu plus exigeants et donc ils vont essayer de bien regarder avant d'aller choisir la maternité dans laquelle ils choisissent d'aller accoucher.
Tout à fait. Donc choisir d'accoucher dans une maternité à taille humaine renforce le lien patient médecin, hein, donc la proximité crée la confiance et les liens durables. Donc ça a beaucoup d'importance pour le médecin qui choisit ce type d'exercice et le patient également. Pour nous médecins, moi personnellement, il y a aussi la proximité avec l'équipe soignante. On est une équipe soudée qui collabore, on a moins d'hierarchie, l'entraide, elle est facile et cette ambiance de travail familiale représente un bon compromis pour moi entre vie personnelle et vie professionnelle.
Vous n'avez pas dormi depuis combien de temps?
Ça va, Jérôme.
Ah bah oui, mais vous êtes arrivé, vous m'avez dit j'ai pas dormi depuis deux nuits.
Oui, je travaille, mais c'est la gynécologie obstétrique partout en France. On travaille beaucoup, donc c'est pas une particularité de Saint-Omer. Bien au contraire, le cadre de vie est agréable. Donc là, quand je vais rentrer chez moi, je vais être près de la nature, je vais me reposer. La circulation est plus fluide. J'ai pas de trajet stressant. Et tout ira bien. Voilà.
Moins de 1000 naissances désormais. Est-ce que vous dites qu'il y a un seuil en dessous duquel il ne faut pas qu'on descende parce que si on descend en dessous de 950, 900 naissances, on va être peut-être en danger à un moment.
C'est une maternité de proximité. C'est-à-dire que nous sommes dans un centre hospitalier public et on reste quand même la seule maternité de l'Audomarois. Le seuil, sincèrement, je ne le connais pas, mais nous faisons tout notre possible pour bien s'occuper des mamans et faire notre travail du mieux qu'on peut.
Alors, on a parlé de la situation ici à Saint-Omer, avec une baisse des naissances dans cette maternité, comme dans toutes les maternités, mais c'est un phénomène évidemment qui dépasse cette commune et ce département. Bonjour Catherine Rennes.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice régionale de l'INSEE. Les naissances, elles diminuent pas uniquement dans le Pas-de-Calais, mais dans toute la France, et vous particulièrement en région Hauts-de-France, puisque c'est la région qui vous intéresse.
Oui, c'est ça. L'arrondissement de Saint-Omer, il connaît aussi une baisse des naissances. Cette baisse de naissance que l'INSEE observe depuis 2010. Au niveau de la région Hauts-de-France, 59 000 bébés sont nés cette année, mais c'est 20 000 de moins qu'il y a 10 ans. Donc voilà. Un chiffre à retenir aussi qui a beaucoup marqué cette année, c'est le taux de fécondité en France métropolitaine. 1,59 enfants par femme, c'est le taux le plus bas depuis la Première Guerre mondiale. Depuis 1919, oui. Et puis dans les Hauts-de-France, on est à 1,66. Il y a 10 ans, on était au-dessus de 2.
C'est ça, traditionnellement, c'est une région dans laquelle on faisait beaucoup d'enfants?
C'est ça, c'est une région qui faisait partie, pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, le croissant fertile. C'était une zone qui s'étalait des Pays de la Loire jusqu'à l'Est, mais en contournant l'île de France par le Nord. Et donc voilà, donc c'est traditionnellement beaucoup de naissances. Et puis ce qu'il faut dire, c'est que la baisse des naissances, elle se poursuit encore aujourd'hui. L'INSEE a publié la semaine dernière les premières estimations pour le mois d'avril. Mois d'avril 2025, c'est le 34e mois consécutif de baisse des naissances en France.
Ça veut dire que la France, qui a longtemps été une exception en Europe, avec un taux de fécondité supérieur à celui de ses voisins, est en train finalement de retrouver la norme européenne?
Alors ça veut dire que la France, comme les autres pays européens, voit sa fécondité baisser. Pour autant, la France reste le pays avec le plus fort taux de fécondité. Mais pour donner un exemple, en Allemagne, la fécondité, c'est en dessous de 1,5 enfants par femme.
Donc on fait toujours plus d'enfants.
On en fait toujours plus, même si on en fait un peu moins.
Si on compare à nos voisins, il y a du mouvement ce matin. Il y a des mamans qui ont mangé. On a vu les plateaux qui ont été déposés tout à l'heure, tout près de nous, puisque le repas est en train de se terminer. Il y a aussi des mamans qui ont accouché il y a quelques jours et qui viennent en consultation. C'est votre cas, Diane. Bonjour.
Bonjour.
Avec votre petite Hortense qu'on a entendue tout à l'heure, qui s'est réveillée. Vous avez accouché ici même il y a 3 semaines, c'est ça?
J'ai accouché ici il y a 3 semaines avec le docteur Chorfa, qui a accouché mes 2 enfants, parce que le premier il y a 2 ans, et puis Hortense il y a 3 semaines.
Tout se passe bien?
Tout se passe bien. Alors juste, elle parlait du lien patient-soignant, et c'est vrai que c'est quelque chose d'exceptionnel ici. Enfin, moi, ça, elle le sait, j'étais très, très attachée à ce que ce soit elle qui puisse accoucher ma petite Hortense. Et je leur remercie d'être venue exprès pour accoucher ma petite Hortense. Et c'est vraiment un suivi exceptionnel.
Vous avez vraiment fait le choix de venir ici à Saint-Omer parce que c'est une, entre guillemets, petite maternité?
Moi, c'est parce que, du coup, je suis à proximité. Uh-huh. Mais après, j'ai eu le suivi avec le docteur Chorfa pour mon premier. J'étais super contente. C'était un suivi exceptionnel. Et du coup, je voulais exactement la même chose pour ma deuxième. Et c'est vrai qu'on est exceptionnellement bien accompagnés. Et même au niveau de tout, enfin toutes les puéricultrices, les sages-femmes, c'est un suivi exceptionnel parce que, comme vous disiez, je suis venue en consultation juste avant pour l'acupuncture avec Alison. Elle m'avait déjà fait plusieurs séances pendant la grossesse. Et c'est vraiment un suivi exceptionnel qu'on a avec les auxiliaires puéricultrices et sages-femmes.
Est-ce que vous avez hésité à avoir ce deuxième enfant ou est-ce que vous hésitez à en avoir un troisième ?
Nous, on ne voulait pas d'enfant unique. Donc ça, on savait qu'on voulait un deuxième. Pour le troisième, on va déjà se laisser le temps de laisser grandir les deux premiers. Mais après, s'il devait y avoir un troisième, ce serait encore ici le suivi. D'accord. Et encore avec le docteur Scherfa.
Vous comprenez les parents qui hésitent à avoir un enfant ou deux enfants ?
Bah après, un enfant, ça chamboule forcément une famille. Deux enfants, nous, on trouve que c'est quand même mieux d'avoir plusieurs enfants qu'un enfant unique pour son évolution. Après, on peut comprendre que pour certaines familles, il y ait un coût financier qui soit pris en compte. Nous, ça ne rentrait pas dans nos paramètres, mais ça peut être pris en compte.
Les raisons économiques, Catherine Rennes, elles sont centrales. On écoutait tout à l'heure Léonie nous dire on a bien regardé le budget, elle va passer à 80%. C'est l'un des facteurs qui explique peut-être cette baisse de la natalité.
Oui, ça peut être un des facteurs, parce qu'en fait, on n'a pas réellement d'explication.
C'est dur d'expliquer, c'est ça, en fait.
Il y a deux choses qui sont dures à expliquer. C'est est-ce que cette baisse, elle n'est pas temporaire, en fait. Parce qu'au milieu des années 90, on avait un taux de fécondité très bas, et il est remonté. Donc là, on ne sait pas. Alors, le problème, c'est que chaque année, les naissances continuent de baisser. Donc, on se dit que c'est peut-être une tendance un peu lourde. Donc, est-ce que c'est conjoncturel, hein, parce qu'il y a eu aussi, on sort d'une période d'inflation. Donc, peut-être que les mamans, les couples ont décidé de reporter un petit peu les naissances. Ou est-ce que c'est plus profond? Alors, j'entendais aussi tout à l'heure Léonie qui parlait, est-ce que je me mets à temps partiel ou pas? Ce qu'on sait, c'est que l'arrivée d'un enfant, ça impacte davantage l'activité des femmes que celle des hommes, hein, parce que l'éducation des enfants, ça repose beaucoup encore sur les maman. Et par exemple, pour vous donner un chiffre, il y a un certain nombre de mères de famille qui, à un moment, décident d'arrêter de travailler dans les Hauts-de-France. À partir de 3 enfants, ça s'accélère. C'est 30% des mamans qui ne travaillent plus, alors que c'est 3 fois plus que les mamans qui ont 2 enfants.
Ce sont surtout les mamans qui s'arrêtent de travailler, plus que les
papas. Ce sont surtout les mamans qui s'arrêtent de travailler. Et si elles ne s'arrêtent pas de travailler, elles se mettent à temps partiel.
Le gouvernement a fait cette annonce ce matin. L'aide à la garde d'enfants sera étendue jusqu'à 12 ans pour les familles monoparentales. Donc, on voit qu'il y a une réflexion aussi autour de ce sujet économique. On fera réagir Frédéric Le Turc, maire d'Arras, président de l'association des maires du Pas-de-Calais, qui va nous rejoindre dans une minute. D'abord, je voudrais qu'on s'intéresse, on parle de la baisse de la natalité, mais il y a aussi, bonjour Sarah Mansoura.
Bonjour.
On va écouter vos reportages tout au long de ce 13-14, le recul de l'âge moyen du premier accouchement. C'était 29 ans et demi en 2015, c'est aujourd'hui un peu plus de 31 ans, ça explique aussi cette baisse de la natalité. Vous avez rencontré, Sarah, deux professeurs de médecine à la maternité Jeanne de Flandre de Lille.
Oui, le professeur Damien Subtil, gynécologue obstétricien, et il le voit depuis une dizaine d'années, non seulement le nombre d'enfants par fratrie baisse, mais les grossesses tardives sont plus fréquentes.
On a des couples qui sont surpris par le temps qu'il faut pour avoir un bébé. On dit qu'il faut au minimum 4 à 6 mois pour faire un bébé normalement. Mais quand on arrive à des âges au-delà de 35 ans, ça peut être bien, bien plus.
Et ce sont des grossesses aussi un peu plus difficiles à mener à terme.
Pour ce qui concerne les grossesses entre 35 et 40 ans, oui, il y a plus de soucis avec un risque de trisomie 21 qui est augmenté, de diabète gestationnel qui est augmenté, et puis des femmes qui vont moins tolérer les complications.
Et les couples ou femmes seules, dit-il, évoquent des questions de précarité, d'éco-anxiété ou de peur de la situation actuelle du monde. Le professeur Christine Decanter voit cette hésitation également.
C'est vrai qu'on a une demande de préservation de la fertilité qui explose pour raisons non médicales. On est surtout très hésitant à faire des enfants. Donc, pour ne pas avoir à y réfléchir, on préfère congeler ses ovocytes. J'ai peur que les femmes, elles repoussent encore plus la date lors de laquelle elles se lanceront pour faire le premier enfant et que ce soit hélas trop tard. La fertilité spontanée, elle chute à partir de 38 ans. Les résultats en FIV aussi. Après 41 ans, en FIV, quels que soient les progrès qu'on ait pu faire, c'est 1 à 2% de chances de naissance vivante.
Enfin, dernier facteur pour expliquer une petite partie de cette baisse de la natalité, le nombre d'IVG a augmenté en France pour passer de 210 000 par an à plus de 240 000 ces 3 dernières années.
La hausse des IVG explique aussi la baisse de la natalité dans notre pays. C'est l'un des éléments d'explication. Merci Sarah Mansoura. Julie Potier, je reviens vers vous. Sage-femme dans cette maternité de Saint-Omer. Question plus personnelle. Vous interrogez sur le fait d'avoir des enfants en ce moment. Quelles sont les raisons qui peut-être vous freinent, qui peut-être vous font dire peut-être que je ne vais pas avoir d'enfants?
Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs. Bon, déjà, il y a mon métier passion qui me prend énormément de temps. J'avoue, j'ai donné ma vie pour mon métier.
D'être sage-femme.
D'être sage-femme.
Ouais, c'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup d'engagement.
C'est beaucoup d'engagement. Et après, j'ai aussi la réflexion du monde à venir. L'incertitude, je me pose énormément
c'est
de questions.
C'est quoi le monde à venir ? C'est l'environnement,
c'est
les guerres, c'est toutes les horreurs qu'on décrit tous les jours à la radio notamment.
C'est pas forcément les guerres, parce qu'on a toujours eu un monde avec des guerres. C'est surtout l'évolution, comme tout ce qui est informatique, réseaux sociaux, l'éducation, que moi personnellement je trouve qui évolue énormément, et pas forcément dans le bon sens. Et puis, il y a tellement de facteurs.
D'accord, qui fait que
qu'on réfléchit.
Et vous n'avez pas encore tranché pour l'instant dans cette question.
Pour l'instant, non.
Et dans cette décision, Diane, vous qui avez eu Hortense, votre deuxième enfant, il y a quelques semaines, est-ce que vous, dans les discussions que vous pouvez avoir avec vos amis, par exemple, avec vos proches, il y a cette question notamment du recul de l'âge moyen de la naissance qui se pose, de l'infertilité qui arrive dans les conversations ?
Alors le recul de l'âge, forcément, parce que maintenant on fait quand même aussi de plus en plus d'études, avec nos formations, donc forcément ça recule l'âge. Mais en tout cas, personnellement, c'est pour ça aussi que ça a été un enfant plus tard. C'est le temps de finir mes études,
quel
de commencer ma carrière.
Quel âge
de premier enfant,
excusez-moi ?
34 ans.
34 ans, d'accord.
Et là, 36, j'aurai 37 en septembre. Donc forcément, c'est le temps de s'installer professionnellement. Et après, la question de la fertilité. C'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de chance finalement de tomber enceinte à chaque fois quand j'ai lancé mes projets bébés. Mais malheureusement, j'ai pas mal d'amis qui soit ont eu beaucoup de difficultés pour avoir le premier et qui maintenant ont des difficultés pour avoir le deuxième, ou qui ont eu tellement de mal pour avoir le premier qui ne veulent pas se relancer dans un parcours de combattant
deuxième,
pour un
c'était
deuxième.
C'était trop dur.
Et les autres cas, malheureusement, de ceux qui n'arrivent même pas à avoir un premier bébé et pour qui, parfois, ça a été un parcours du combattant avec la multiplication, malheureusement, des fausses couches, des lancements de parcours PMA, mais qui restent infructueux et qui s'orientent maintenant vers des parcours d'adoption parce que, malheureusement, ils n'arrivent toujours pas à avoir d'enfants sans explication toujours concrète parfois.
Voilà, adoption, ça peut être aussi une piste après pour certains futurs parents. On parle ici en direct de la maternité de Saint-Omer dans ce 13-14, de la baisse des naissances dans notre pays, des conséquences, on en parle pour les parents, pour les familles. Ensuite, ces enfants, quand ils grandissent, il y a des conséquences pour les écoles, des fermetures d'écoles peut-être à venir. On va ouvrir ce dossier dans un instant. D'abord, je voudrais qu'on retourne dans une des chambres qui nous entoure. Autre petit moment qu'on a saisi ce matin sur le vif, prise de sang pour Issa. Issa, il a 3 jours, il est en ce moment avec sa maman Khadija. Et ce matin, Khadija était un peu inquiète. C'était l'heure de la prise de sang avec Marivonne, la puéricultrice, qui la rassure.
Donc si jamais vous voulez vous laver les mains avant, vous pouvez. Et voyez, ici, c'est un petit bonbon que vous ferez téter pendant que je fais le petit soin. Comme ça, votre enfant, pendant qu'il tète, il ressent moins la douleur. C'est beaucoup plus facile pour lui. Allez-y, madame. Je prépare tout le matériel pendant que vous faites ça. Allez-y. C'est bon, hein ? Ah, ça surprend, ça change du lait de maman. Ça change du lait de maman. Allez-y, mettez votre petite boîte dedans pendant que comme ça. Voilà, il va t'aider. Super. Ça va pour vous ?
Oui, ça va.
Vous n'avez pas peur du sang ?
Non,
ça va.
Ok. Ça pue comme ça, ça fait pas mal.
Non, regardez, vous avez l'impression qu'il a mal ? Hein ?
Il aime bien ça.
Il aime bien, oui. C'est bon, il tète ? J'ai obligé de pomper un petit peu, voyez, parce que sinon ça coule pas et au bout d'un moment ça coagule.
J'ai l'impression qu'il dort.
Ouais, voyez, il dort. Bah, c'est super. C'est ce qu'on recherche.
Issa qui s'est endormi avec sa maman Khadija. Bonjour Frédéric Le Turc.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, d'avoir fait la route depuis Arras. Combien de route depuis Arras ?
50 minutes.
50 minutes de route. C'est un grand département le Pas-de-Calais. Vous êtes président de l'association des maires du Pas-de-Calais. Même tendance à la maternité d'Arras qu'ici à Saint-Omer, baisse des naissances.
Alors non, c'est plutôt l'inverse. On est plutôt passé à 3000, mais avec un regroupement de maternité d'un établissement public et d'un établissement privé.
D'accord, parce qu'il y a eu un regroupement.
Voilà, mais d'une manière générale, je dirais que les chiffres qui étaient exposés par Madame de l'INSEE sont clairs. Il y a une tendance à la baisse, mais le Pas-de-Calais résiste. Quand vous regardez, en fait, les baisses, elles sont fortes en France, importantes en région de France, mais dans le Pas-de-Calais, on reste au-dessus de ces baisses que dont vous parlez depuis tout à l'heure.
Quand on est maire, on a évidemment la gestion notamment des écoles, des crèches, c'est dans votre compétence. On va en parler avec Sarah Mansoura, qu'on retrouve, qui a sillonné votre département ces derniers jours. 138 fermetures de classes à la rentrée prochaine dans le Pas-de-Calais. Ça inquiète évidemment les maires, notamment dans les communes rurales. Vous êtes rendue, Sarah, à Ham-Boucre. C'est près de Calais, 1400 habitants, et donc une classe qui va fermer ces prochains jours.
Oui, cela fait 40 ans que Thérèse habite juste en face de l'école. À l'époque, cette école comptait 120 élèves. Il y en avait même une deuxième sur le territoire communal. Aujourd'hui, les rires de la cour de récré se raréfient. Et il n'y aura que 67 inscrits en septembre pour 3 classes.
C'est sûr, une école qui diminue, c'est le village qui en pâtit. Hein. Moi, d'enfant, le village, il meurt un peu. Hein. Faut se battre.
Et elle s'est d'ailleurs battue avec succès il y a une trentaine d'années pour garder une classe. Car en creux, dans ce village où des vaches broutent à quelques mètres de la mairie, où le seul commerce est le café du bourg, eh bien, il y a la peur de perdre en attractivité. Philippe Bouchel, le maire.
Dans une commune rurale, l'école, c'est un point déterminant. Les collègues maires des communes qui ont à peu près la taille d'Ham-Boucre, c'est-à-dire 1500 habitants, sont soucieux effectivement des effectifs. Chaque année, on n'attend pas mois de juin pour savoir combien on va avoir d'élèves à la rentrée de septembre. On regarde un petit peu comment ça se présente.
Et ça se présente pas forcément toujours bien. Alors la commune redouble d'efforts, confie la première adjointe Adeline Touron.
On met en place la tarification sociale de la cantine. On travaille toujours à soutenir l'équipe enseignante. Et puis on a aussi un projet de nouvelle école. Hein. Qui dit nouvelle école dit sûrement des nouvelles familles qui voudront peut-être venir s'installer.
Alors c'est un énorme projet financier, effectivement. Il faut que l'école subsiste, hein. C'est impératif. Ça redonnera du dynamisme à l'ensemble.
Et ils espèrent à terme inverser la tendance, même si la question des RPI, regroupements pédagogiques intercommunaux, se pose de plus en plus. À Ham-Boucre, l'école a perdu en tout 24 élèves ces 5 dernières années.
Merci Sarah Mansoura. Frédéric Leturc, quand on est maire, comment est-ce qu'on s'adapte à cette tendance, moins d'élèves année après année dans les écoles?
Alors, je suis maire, mais je suis aussi vice-président de l'AMF sur les questions d'éducation. Et on a posé en fait les choses sur la table depuis plusieurs années. On a signé un protocole entre l'Association des maires de France et l'Éducation nationale. Et demain, je serai dans l'Aisne à Saint-Quentin, justement, pour illustrer l'idée de ce protocole qui vise non plus à raisonner de manière comptable et d'une année sur l'autre, mais sur une séquence pluriannuelle avec un regard beaucoup plus large, autant sur le quantitatif que sur le qualitatif, en essayant de retravailler la carte scolaire, le maillage en fait de nos écoles dans nos différents territoires, en considérant les besoins de la famille, en considérant le temps de déplacement forcément pour les enfants.
Ça veut dire quoi?
En intégrant la
fatigue. Les écoles qu'on peut fermer et celles qu'il ne faut pas toucher.
Je pense que ça serait.
Sinon, ça fait trop de route, par exemple, pour des
enfants. Je pense qu'il ne faut pas mentir en fait aux citoyens. Aujourd'hui, en fait, on ne peut pas obligatoirement ne pas tenir compte de la baisse de la natalité et ne pas en fait regarder l'organisation d'une carte scolaire en fait qui soit cohérente. Elle doit être cohérente pour la famille. Elle doit être cohérente pour l'enfant surtout. Elle doit être cohérente pour le nombre d'enfants à scolariser avec une qualité d'enseignement en fait qui doit être sécurisée. Et quand vous dites en fait que les collectivités sont en charge du multi-accueil de la petite enfance, vous avez raison, mais c'est pas obligatoire. C'est quelque chose que les collectivités se sont vues, je dirais,
attribuer,
qui nécessite forcément à ce qu'on intègre autant les besoins du moment que peut-être les besoins de demain, puisque comme vous le disiez tout à l'heure, il y a une baisse, mais on peut très bien avoir dans les 10 prochaines années une hausse. Ça veut dire que les maires doivent être en fait avec un regard très prospectif qui nécessite de préserver des services, d'organiser les territoires, mais surtout de penser aux attentes des familles concernées, forcément.
Ce qui est sûr, c'est que dans ce département, 5000 naissances de moins en 2024 par rapport à 2014, il y a forcément des conséquences. Alors, on a parlé du primaire, mais au collège, au lycée, Catherine Rennes, vous qui êtes directrice régionale de l'INSEE, on a déjà une vue de ce que ça va représenter en termes de baisse du nombre d'élèves?
Oui, on a déjà une vue. Alors, on ne l'a pas fait toute seule, hein, cette vue, cette projection. On l'a faite avec la région académique, les conseils départementaux hein, qui ont la compétence, et puis aussi le conseil régional. Donc, effectivement, à horizon 2050, on pourrait perdre 140 000 élèves dans le secondaire. C'est 25% d'élèves en moins.
À quelle échelle, 140 000 élèves
à horizon 2050, sur l'ensemble de la région.
Sur l'ensemble de la région en France.
Ça concernerait quasiment tous les bassins de formation. Ce serait un peu plus fort, la baisse, sur le littoral et puis dans l'Aisne.
Ça veut dire que le débat, qui est déjà le débat aujourd'hui, mais qui va monter, Frédéric Leturc, c'est est-ce qu'on diminue le nombre d'enfants par classe? Est-ce qu'on consacre moins d'argent finalement à l'éducation nationale parce qu'il y a moins d'élèves? Ou bien est-ce qu'on consacre autant pour essayer d'augmenter le niveau?
Je pense qu'on ne peut pas répondre à micro tendu en fait sur des questions aussi fondamentales et qu'il faut surtout en fait que dans ce pays,
on peut ouvrir le débat.
Faut surtout que dans ce pays, et c'est très bien le format de l'émission, faut surtout que dans ce pays en fait on s'intéresse sur quel est le projet finalement de la France, quel est le projet des territoires, quel est le projet en fait que l'on a envie de conduire ensemble. Tout à l'heure, Madame l'exprimait très bien. Elle est passionnée par son métier, elle s'interroge beaucoup sur en fait sa capacité ou son envie d'être maman. Et c'est ça en fait autour duquel il faut aussi qu'on puisse apporter des réponses. Comme en fait, il faut qu'on essaye de réduire ce côté un peu anxiogène et préoccupant en fait autour desquels on sent bien que toutes les familles de France s'interrogent pour redonner confiance, redonner envie de croire à l'avenir du pays, essayer en fait de travailler ensemble sur des questions fondamentales. Et bien évidemment, dans les questions fondamentales, on a l'école et la part en fait que l'on veut lui consacrer en termes budgétaires, mais aussi en termes de considération et d'attention.
Alors, on y pense moins, mais cette baisse des naissances a aussi des conséquences pour les entreprises spécialisées dans ce secteur, la petite enfance, l'enfance, puis la jeunesse. Et c'est le cas à Tourcoing, près de Lille, où je me suis rendu hier soir, pour l'entreprise Verbaudet, bien connue des familles françaises, spécialisée dans la puériculture et les vêtements pour enfants. Tout est conçu à Tourcoing. La fabrication est réalisée en Asie. 1000 salariés en France. Et j'ai retrouvé hier au siège son PDG pour une visite.
Mathieu Hamel, enchanté. Vous arrivez direct de Paris ou
Exactement. Ouais.
On va peut-être s'installer là.
Bah, allons-y, vous nous faites la visite.
Alors, nous sommes chez Verbaudet, à Tourcoing.
C'est quoi, c'est des catalogues ?
Exactement. En fait, Verbaudet est né au début des années 1960 et Verbaudet était en fait une marque de VPC, de vente par correspondance, et publiait des catalogues. Donc vous avez sous les yeux ici les premiers catalogues. Celui-là date par exemple de 1964. Donc c'est pas encore du commerce électronique, mais c'est quand même du commerce à distance. Et en 60 ans, on est devenu le leader digital, en fait, de l'équipement pour enfants, partout en Europe, avec quasiment un produit vendu chaque seconde. Ce qu'il faut savoir, et ce qui est important chez Verbaudet, c'est que tous les produits sont conçus, dessinés, mis au point en France.
Ici ?
Ici, dans les locaux dans lesquels on se trouve.
À Tourcoing ?
Et donc on
ça, c'est des anciennes collections, des vêtements pour enfants. Alors, là.
Ce sont des vêtements pour enfants, ce sont des prototypes sur lesquels les équipes travaillent en ce moment pour faire tout le travail de mise au point. Donc on garde les prototypes ici, et une fois que le produit est conforme, il va être mis en production et il sera ensuite livré dans nos entrepôts.
Moins 20% de naissances en France ces 15 dernières années, Mathieu Hamel. Quand vous voyez les chiffres qui tombent mois après mois, vous dites c'est une catastrophe pour nous, c'est un marché qui se réduit inexorablement.
Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une catastrophe. Par contre, c'est un vrai challenge pour Verbaudet, mais je pense pour tous les acteurs du monde de l'enfant. Et cette baisse de la natalité, elle se traduit très concrètement dans une baisse de la consommation. Là, le dernier chiffre que j'ai en tête, c'est celui qui est communiqué sur le marché de la puériculture, donc les poussettes, les sièges auto, etc., qui baisse de 6% depuis janvier 2025 jusqu'à juin 2025 par rapport à la même période de l'année dernière.
Donc, c'est énorme.
C'est énorme. Et en fait, il y a une corrélation directe entre le déclin de la natalité et la baisse de la consommation. On sait aujourd'hui qu'on a aussi une concurrence assez déloyale de la part des plateformes chinoises qui investissent nos marchés avec des produits qui ne sont pas conformes, qui ne sont pas de bonne qualité.
Chine, Temu, pour ne pas les citer.
Alors, pour ne pas les citer, absolument. Et qui font beaucoup de mal parce que les produits vendus par ces plateformes ne répondent pas aux réglementations et ne répondent pas au grade de qualité que nous nous imposons. Un des axes majeurs de travail ici, c'est la qualité et la durabilité. On est au-dessus des exigences réglementaires françaises et européennes, et c'est sûr que cette concurrence, elle fait du mal. Ajouté à ce contexte de dénatalité, c'est un moment qui est difficile. Alors, on arrive ici dans la partie bonsoir, qui est tout ce qui est textile de maison. Voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Donc,
les gigoteuses.
Les gigoteuses, voilà. Donc, vous êtes un connaisseur. On fait des sièges auto, on fait des poussettes, on fait des chaises hautes.
Ça, c'est nouveau, ce type d'activité dans votre catalogue.
Alors, historiquement, Verbaudet, c'est du prêt-à-porter pour enfants. L'introduction de la puériculture, de la maison, des jouets, s'est fait progressivement entre 2000 et 2015. Et aujourd'hui, 50% des ventes se font sur des vêtements et 50% des ventes se font sur les autres catégories, mais qui sont tout aussi essentielles, voire peut-être plus encore que les vêtements pour les parents. Ce qui est nouveau, alors ça nous écarte peut-être un tout petit peu du sujet, c'est qu'on va commercialiser au moment de Noël notre première ligne pour les petits chats et les petits chiens. Parce qu'aujourd'hui, on s'adresse à la famille. Et on voit que dans les familles, il y a de plus en plus d'animaux domestiques qui ont une place tout à fait importante et méritée, bien souvent d'ailleurs. Et donc, on va proposer avec notre signature de style et notre qualité, beaucoup de produits pour les animaux domestiques.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci pour votre accueil, merci voilà. Pour cette visite. Mathieu Hamel, PDG de Verbaudet. Ça nous éloigne un peu du sujet, c'est ce qu'il nous dit quand il nous dit on va proposer des produits pour animaux de compagnie en plus des produits pour les enfants. Frédéric Leture, qu'est-ce que ça nous éloigne vraiment du sujet? Est-ce que ça en dit pas long aussi sur la société aujourd'hui?
En tout cas, ça en dit beaucoup sur la capacité d'une entreprise à s'adapter.
Ah oui.
Et ça nous dit aussi, en fait, comment il faut regarder globalement la famille, puisqu'il intègre, en fait, l'animal domestique dans ses objectifs. En tout état de cause, il y a effectivement la manière dont l'entreprise, remarquable reportage, s'adapte et prend en considération la baisse de la natalité. On n'a pas parlé, en fait, de la difficulté qu'elle aura peut-être demain à recruter. Parce que toutes les naissances que l'on n'a pas, ce seront demain des savoir-faire que l'on perdra et peut-être de la main-d'œuvre que l'on ne trouvera pas.
On peut parler de main-d'œuvre à chercher. Ça nous renvoie au débat sur l'immigration, par exemple, en
exactement.
Ce moment. On peut parler des retraites aussi.
Oui.
Parce qu'évidemment, des générations moins nombreuses cotiseront moins pour payer les retraites
exactement.
De ceux qui ne travaillent plus.
Et c'est là où il faut, en fait, qu'on ait un regard différent sur, en fait, ces sujets-là. Parce qu'à force de mettre sur la table des discours provocateurs et caricaturaux, on se prive en fait d'une capacité pour notre pays à regarder l'avenir.
Est-ce qu'on a conscience du choc qui vient, du choc qui nous arrive?
Je pense que des émissions comme la vôtre, avec ce format, permettent en tout cas de poser des petites graines pour faire en fait prendre conscience à tout citoyen que les enjeux sont beaucoup plus importants que ce que l'on en dit parfois de manière un peu gratuite à la télévision ou dans certains médias.
Catherine Reyne, il y a aussi l'enjeu économique, hein, vous qui êtes directrice régionale de l'INSEE, la question des retraites en fait partie.
Oui, comme vous l'avez dit, hein, les bébés qui naissent aujourd'hui, certes, ça sont des futurs écoliers, des futurs lycéens, mais ce sont des futurs actifs et des futurs cotisants aussi. Donc, va se poser la question de l'équilibre. Hein. On sait que la population vieillit et à horizon 2040-2050, il y aura plus d'inactifs que d'actifs. Hein. Finalement, à un moment, ça va se renverser. Et donc, d'où le problème des retraites aussi hein, qui peut se poser.
Mais je retiens que rien n'est écrit et qu'il y a eu dans l'histoire des changements de tendance à des moments qu'on n'attendait pas, où la natalité a rebondi alors qu'on avait peut-être essayer beaucoup de choses pour qu'elle rebondisse et elle est repartie, j'allais dire, par miracle. En tout cas, on a aussi du mal à expliquer le mystère de la naissance et le mystère de la décision de parents qui, à un moment, se disent on a envie d'un premier enfant, d'un deuxième, d'un troisième, etc.
Oui, c'est ça. Bah, heureusement que rien n'est écrit et que tout est encore possible. Donc oui, dans le passé, on a vu une baisse de la fécondité qui est remontée ensuite. Donc pourquoi pas dans les années à venir.
Alors, ils n'en sont pas là, les bébés qui nous entourent. Certains vont sortir aujourd'hui. Il y en a qui ont quelques semaines qui sont dehors. Ici, il fait très bon, Nala Shorfa. On est vraiment dans des conditions idéales dans cette maternité de Saint-Omer. Mais quel conseil on peut donner aux parents? C'est un peu l'actu du jour aussi, qui vont sortir aujourd'hui avec leurs jeunes enfants ou nouveau-nés quand il fait 30 degrés. Il faut le rappeler parce que c'est toujours très important pour la santé.
Bien s'hydrater, bien boire. 1,5 litre, 2 litres par jour, surtout. Si
2 litres par jour?
1,5 litre jusqu'à 2 litres, surtout chez les mamans allaitantes, parce que il va falloir produire aussi du lait maternel qui est à 80 à 90% d'eau pour le bébé, pour qu'il puisse s'hydrater également. Un vêtement de moins, pardon, et éviter l'exposition au soleil.
Comment on voit que le bébé a chaud? Qu'est-ce qu'il doit nous... Qu'est-ce qu'il doit... C'est Julie, peut-être, qui peut nous dire ça. Julie Potier.
Oui, Julie... Après, c'est déjà un bébé qui réagit moins aussi,
ouais.
Qui pleure moins. Après, c'est aussi le toucher. Hein. On touche au niveau du torse de bébé pour voir la température.
Et avec ces indices-là, a priori, on sait si le bébé a trop chaud, s'il faut enlever une couche de vêtements. Vous avez tous les conseils en main. Avant de vous quitter, on resterait bien longtemps. Vraiment, on a été tellement bien accueillis ici dans cette maternité de Saint-Omer. On va en profiter encore un tout petit peu. On voulait vous faire partager un petit moment magique de cette matinée. Chambre 1050, ce matin. Premier moment de complicité entre un bébé, sa maman et son papa.
Donc, je m'appelle Pierre. Je suis avec Gaspard et ma conjointe Ophélia. J'ai enlevé mon t-shirt, lui est en couche, et on le met vraiment contre nous avec une petite couverture pour qu'il soit au chaud, pour qu'il entende mon cœur aussi, ouais. Dès qu'il fait un petit bruit, un petit mouvement brusque, on lui parle, Bon, on lui dit plein de mots gentils, des mots d'amour. On lui a déjà trouvé des petits noms. On l'appelle déjà mon lapin, mon chéri. Plein de petits mots d'amour. On entend les oiseaux, aucun bruit de voiture, rien. C'est la nature, quoi. C'est calme, très très calme. On est sur une autre planète, on pense plus à rien. C'est que du bonheur pour l'instant.
Beaucoup de bonheur ensemble. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui en direct de cette maternité de Saint-Omer. Je voudrais remercier Nala Chorfa, chef du service maternité, et toute son équipe. Remercie également Bérangère Caudroit, cadre du pôle mère-enfant, qui nous a permis de préparer cette émission et de vous la proposer. Notre chargé de production, Pascal Bresse, à la technique, Marc Garvenès et Clément Vuillet. La rédaction en chef assurée par Cécilia Arbonnat et notre chargé de programme, Claire-Sophie Collet. Bonjour Mathieu Vidard.
Jérôme, bonjour.
Quel est le programme de la Terre au carré aujourd'hui?
Eh bien, ambiance quasiment avec des oiseaux aussi pour parler des haies chez nous dans un instant.
On est raccord. À tout de suite pour la Terre au carré.
On en parle.
Pourquoi passer à la mobilité électrique à l'approche des vacances d'été? On en parle avec Camille, conseillère EDF. Bonjour.
Bonjour. Eh bien, parce que choisir l'électrique, c'est vraiment faire des économies. En fait, la recharge de votre voiture électrique vous coûtera 4 fois moins cher que de faire un plein d'essence. Et c'est quand même plus agréable de le faire depuis chez vous plutôt que d'aller à la station de service.
Ça, c'est sûr. Merci, Camille.
Sourcée des EDF, mars 2025. Plus d'infos sur edf.fr/mobilité-électrique. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
J'avais peur que tout le monde remarque que je porte des aides auditives. Sylvie nous parle d'Audica Blink Mini. Mais elles sont invisibles, en fait. Et je peux à nouveau bien entendre mes amis, la musique que j'aime, parler avec des gens sans avoir peur qu'ils les remarquent. Je peux rester moi-même, quoi.
Comme Sylvie, découvrez Audica Blink Mini, les aides auditives intra-auriculaires dernière génération, discrètes et performantes. Prenez rendez-vous pour les essayer gratuitement pendant 30 jours. Audica, expert et à votre écoute. Dispositif médical sur ordonnance, demandez conseil à votre audioprothésiste, consultez attentivement la notice.
Le maître du polar revient avec un nouveau héros. Découvrez Sous les eaux d'Avalon de Michael Connelly. Sur l'île de Santa Catalina, l'inspecteur Stilwell pensait couler des jours tranquilles. Mais un cadavre retrouvé dans le port va tout faire basculer. Nouveau personnage, nouvelle enquête, Sous les eaux d'Avalon, de Michael Connelly, aux éditions Calman Levy.
France Inter. Première radio de France.